Pour moi, l'esthétique et la socio-esthétique sont deux métiers complètement différents. Ils sont complémentaires, mais totalement différents.
Belle réussite. Un podcast de L'Ouvre-Boîte. L'Ouvre-Boîte est une coopérative d'activité et d'emploi en Loire-Atlantique et Vendée. Dans ce troisième épisode, découvrez Florence Hervouette de L'Art de Soi.
Je m'appelle Florence Hervouette, j'ai 43 ans, j'ai deux enfants, j'habite la Chapelle-Basse-Mer et je suis socio-esthéticienne depuis maintenant 12 ans. Et le nom de mon enseigne est L'Art de Soi. La socio-esthétique, en fait, c'est un accompagnement auprès des personnes qui sont fragilisées. Donc, ça peut être par la maladie, le handicap, la précarité, des événements au cours de notre vie qui peuvent nous arriver, où je les accompagne pour les aider à leur redonner envie de prendre soin d'eux, leur redonner confiance en eux, pouvoir pallier parfois à certains effets secondaires des traitements au niveau de la peau. Voilà, l'objectif, il est vraiment de revaloriser leur image et de leur redonner confiance en eux. Moi, j'ai été esthéticienne pendant 10 ans avant d'être socio-esthéticienne. Donc, j'ai passé mon CAP esthétique et un brevet professionnel d'esthétique. Suite à ça, j'ai passé une formation complémentaire d'une année pour devenir socio-esthéticienne. La socio-esthétique, c'est vraiment une formation complémentaire de l'esthétique. Donc, pour pouvoir prétendre à passer cette formation et être socio-esthéticienne, il faut avoir au minimum 2 années d'expérience et avoir son CAP esthétique. Moi, j'ai toujours su que je voulais faire de l'esthétique depuis l'âge de 14 ans. Sauf que j'ai jamais aimé le côté commercial, faire du chiffre, fallait vendre des produits par jour, par semaine. Et ce côté-là, moi, ne m'a jamais plu. Et un jour, en fait, dans le dernier institut où je travaillais, j'ai rencontré une nouvelle cliente est arrivée dans l'institut et je m'en suis occupée. Et en discutant en cabine, en lui demandant ce qu'elle faisait, elle m'a dit « je suis socio-esthéticienne ». Et en fait, je lui ai demandé « qu'est-ce que c'est, en fait, la socio-esthétique ? » Et quand elle m'a expliqué, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, en fait. Ça enlevait le côté vraiment commercial, faire du chiffre. Et je travaillais beaucoup plus en profondeur sur le bien-être de la personne, le mieux-être. Et je me suis dit que c'était ça que je voulais faire, absolument. Et après avoir pris quelques renseignements sur comment est-ce qu'il fallait faire, quelle formation est-ce qu'il fallait faire, je ne l'ai pas fait tout de suite parce que la formation, à l'époque, il n'y avait qu'une seule école qui existait en France. Et j'ai mis un petit peu de temps, quelques années, avant de pouvoir faire ce qu'il fallait pour pouvoir me payer cette formation-là. Et en fait, le dernier institut donc, où j'ai travaillé a été racheté par une esthéticienne. On était 4 salariés et la nouvelle personne qui a racheté l'institut ne pouvait pas garder les 4 salariés. J'étais la dernière arrivée, donc elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas me garder. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là, j'ai eu le déclic, je me suis dit « c'est le moment, il faut que j'y aille ». Donc je m'inscris. Et en fait, j'ai été prise dès le premier coup. Quand j'étais en formation de socio-esthétique, j'ai cherché des socio-esthéticiennes sur la région où j'habitais. Et il se trouve que j'ai trouvé l'association régionale des socio-esthéticiennes qui s'appelle l'ARS, Pays de Loire, où j'ai contacté une socio-esthéticienne qui en faisait partie, qui m'a proposé de participer à une réunion de l'association. Et lors de ces réunions, en fait, j'ai rencontré Marie Roulier, qui était socio-esthéticienne. Et qui faisait partie de L'Ouvre-Boîte. Et à ce moment-là, elle était enceinte, donc elle cherchait quelqu'un en fait pour la remplacer pendant son congé maternité. Donc j'ai commencé en fait à la remplacer bien avant d'avoir mon diplôme de socio-esthétique. C'était pendant l'année de formation de socio-esthéticienne, puisque ce n'était pas une année de formation complète. J'y allais 15 jours par mois ou 3 semaines par mois. Donc, j'avais du temps après de disponible. Donc, je l'ai remplacée, en fait, pendant son congé maternité. C'est comme ça que j'ai connu L'Ouvre-Boîte 44, ce que c'était, ce qu'était le statut d'entrepreneur salarié. Et à la fin, j'ai eu donc mon diplôme de socio-esthéticienne et Marie m'a proposé de venir travailler avec elle au sein de L'Ouvre-Boîte 44. Alors, on avait chacune nos activités, nos interventions différentes, mais on a travaillé sous le même nom, c'est pour ça que l'activité s'appelle encore l'art de soi. Je travaille tous les jours dans des structures différentes, puisque la socio-esthétique, l'objectif, il est que les accompagnements soient gratuits pour les bénéficiaires ou les patients. Donc, je suis rémunérée par les structures. J'interviens aussi bien dans des structures médicales, médico-sociales, ça peut être social aussi, et même d'autres collègues interviennent dans le carcéral aussi. Les postes en CDI à temps plein sont très très rares, puisqu'il faut que la structure ait le budget. Pour pouvoir en vivre et travailler de ce métier que j'aime énormément, je travaille tous les jours dans des structures différentes. Pour citer des exemples, à la Ligue contre le cancer, au comité de la Ligue contre le cancer qui est sur Nantes, une journée par semaine. Je travaille aussi une journée par semaine en oncopédiatrie à l'hôpital Mère-Enfant au CHU de Nantes, auprès des enfants et des adolescents qui sont atteints de cancer, leucémie. Je travaille en ESAT. Alors ESAT, c'est établissement d'aide pour le travail auprès des travailleurs handicapés. Je travaille dans un centre de rééducation et de réadaptation pour les enfants et les adolescents qui s'appelle ESEAN à Nantes. Et parfois des ateliers ou des interventions plus ponctuelles comme l'association Petit Frère des Pauvres à Vertou, le Prioré. Voilà. Et je travaille aussi, mais là c'est un peu différent, auprès du personnel du CHU, dans le cadre du bien-être au travail, en fait. Ils ont des temps de massage sur leur temps de travail. Donc là, c'est un peu différent. Après, je travaille différemment dans chaque structure, puisque ça dépend des bénéficiaires et des patients. S'ils sont atteints de maladie ou de handicap ou de précarité, je les accompagne totalement différemment. Par exemple, la Ligue contre le cancer, je reçois les personnes qui sont atteintes de cancer en séance individuelle. Mon travail, il est de pallier aux effets secondaires des traitements, puisqu'ils ont souvent de la chimiothérapie. Et la chimiothérapie assèche énormément la peau. Donc je fais tout ce qui est soin pour la réhydrater, la renourrir, soin du visage, soin des mains, soin des pieds. J'apprends aux femmes à redessiner leurs sourcils pendant les traitements, puisqu'elles peuvent malheureusement parfois perdre leurs sourcils et leurs cils. À se maquiller d'une manière différente pour garder cet effet bonne mine. Tout ce qui est massage de relaxation pour les aider à lâcher prise, diminuer les tensions, diminuer parfois aussi certains effets secondaires qu'elles ont comme les nausées. Alors je n'ai pas la prétention de les enlever, hein, les nausées. Par contre, j'y contribue. Pouvoir les diminuer en intensité. En oncopédiatrie auprès des enfants, je fais exactement la même chose. Il y a aussi tout ce qui est conseil autour de leurs soins quotidiens. Qu'est-ce qu'elles peuvent utiliser comme produit pendant leur traitement? Qu'est-ce qu'il faut qu'elles évitent? Quels soins est-ce qu'elles doivent avoir quotidiennement pour contribuer à la sécheresse de la peau? Et par exemple, accompagnement totalement différent auprès des travailleurs handicapés. Là, je vais plutôt travailler avec eux sur les soins d'hygiène corporelle. Ce sont des personnes qui ont des déficiences intellectuelles, psychiques et qui n'ont pas ces habitudes de soins que nous, on peut parfois avoir. Donc, je leur apprends à savoir bien prendre une douche, à quelle fréquence, le brossage des dents, la toilette du visage, tout ce qui est vestimentaire. Pourquoi ne pas porter un pull qui est une grosse tache toute la journée quand ils travaillent en restauration ou autre. Donc voilà, mon travail est différent tous les jours en fonction des bénéficiaires ou des patients que j'ai avec moi. Pour moi, le métier de socio-esthéticienne, quand on entend socio-esthéticienne, on pense tout de suite à esthéticienne. Les gens ont une image un peu esthéticienne des instituts de beauté, ce qu'on peut faire. Pour moi, l'esthétique et la socio-esthétique sont deux métiers complètement différents. Ils sont complémentaires, mais totalement différents. Ensuite, on est tributaire des budgets des structures. Donc, il faut que la structure ait le budget pour faire intervenir des socio-esthéticiennes. Il faut déjà qu'ils aient la démarche de vouloir en faire intervenir une, et je pense qu'on comprend le métier de socio-esthéticienne quand on voit une socio-esthéticienne travailler. Avant, c'est un peu difficile, visuellement, de savoir comment est-ce qu'on intervient. On utilise l'outil esthétique, mais ce n'est pas la seule finalité, en fait. La finalité, elle est vraiment de revaloriser la personne, l'image de soi de la personne. Aujourd'hui, il y a d'autres écoles qui se sont ouvertes, qui forment aussi à la socio-esthétique. On en parle de plus en plus parce qu'on a un peu changé nos méthodes d'accompagnement et de travail. On se rend compte qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement le côté prescription médicale qui va soigner la personne. En fait, le corps et l'esprit vont ensemble, pour moi. Voilà, quand le corps n'est pas bien, en général, c'est l'esprit qui commence à, voilà, à ne pas aller bien. Et quand on n'est pas bien dans sa tête, on n'a plus envie de s'occuper de soi. Et en fait, le bien-être, pour moi, c'est un équilibre des deux. Donc voilà, je pense que voilà, on est beaucoup plus sur aujourd'hui ce sujet-là, tout ce qui est médecine alternative, se faire du bien, trouver des variantes justement au traitement. Parfois, les médicaments, ça peut parfois éviter de prendre par exemple des antidépresseurs ou autres médicaments. Alors c'est complémentaire, mais je pense qu'on est aujourd'hui dans notre vie très anxiogène où on court partout. On est aussi à la recherche d'un bien-être en fait général, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il se développe. J'avais peur de cette idée d'être entrepreneur au démarrage, parce que moi, le côté financier, comptable, etc., c'est quelque chose que je n'ai jamais aimé. J'étais très nulle en maths quand j'étais petite et c'est toujours le cas. voilà, donc ce côté-là me faisait peur et je ne savais pas en fait comment démarcher. Comment aller chercher les structures, comment prospecter, toutes ces choses-là. Et c'est quelque chose que la coopérative m'a appris, en fait, au démarrage, puisqu'on a un accompagnement avec des ateliers sur des thématiques diverses, mais tout ce qui concerne vraiment l'entrepreneuriat. Et tout ça m'a rassurée, en fait, et j'ai évolué au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça que le statut d'entrepreneur salarié... au démarrage, pourquoi je l'ai pris aussi. Et puis parce que j'ai découvert, en ayant ce statut, une coopérative avec d'autres entrepreneurs de d'autres métiers totalement différents, mais une richesse en fait dans les échanges, le fait d'être rassuré, de se rassurer avec d'autres qui vivent en fait quelque part la même chose que nous, même si c'est des métiers totalement différents. Mais l'entrepreneuriat reste pour moi une partie de la même chose. Et en fait, cette famille, je dirais que c'est presque une famille, m'a plu et je ne me suis pas sentie seule. Et j'avais très peur de me sentir seule au démarrage, surtout que mon métier est un métier qui existe depuis 40 ans mais qui est encore très mal connu. Donc je savais que je n'allais pas avoir des socio-esthéticiennes ou des personnes qui allaient pouvoir m'accompagner aux quatre coins du département. Et en plus, comme Marie faisait déjà partie de la coopérative, je savais que l'équipe connaissait aussi ce qu'était ce métier et comment est-ce qu'on travaille. Donc voilà, ça m'a rassurée. En fait, tout ça. Et en fait, je pense que je m'y plais très bien puisque je suis toujours là. Quand j'ai commencé à travailler à l'ouvre-boîte, j'ai travaillé avec Marie. Et ensuite, une troisième socio-esthéticienne est venue au sein d'ouvre-boîte qui s'appelait Karine Munro. Donc, on a travaillé à trois. L'objectif de travailler à trois, il était de... On avait chacune nos activités, mais il était de pouvoir se remplacer dans les structures quand on était en congé maternité ou en arrêt ou autre. Il était de mutualiser nos compétences, de les faire évoluer ensemble. Voilà. Et ce travail-là en trio m'a bien plu à l'époque. Après, Marie a changé totalement de vie professionnelle. Karine aussi. Donc, elles sont parties du coup d'ouvre-boîte. Donc, c'est vrai que je me suis retrouvée toute seule sous le nom de l'art de soi. Mais l'art de soi reste au sein d'ouvre-boîte puisque ça a été créé au sein de la coopérative. Donc, voilà. Et ce côté-là me manque. Donc, j'aimerais un jour pouvoir retrouver cette méthode de travail avec d'autres collègues et justement pour travailler en complémentarité, en fait. Quand j'ai commencé la socio-esthétique, je voulais absolument un poste à temps plein, travailler dans une seule structure. Je pense que c'était pour la sécurité que j'avais besoin de ça. Et en fait, je n'ai pas eu le choix de commencer à travailler comme ça si je voulais vivre de mon métier, du coup. Et aujourd'hui, je crois que si on me proposait un poste en CDI, je refuserais. Parce que, alors, certes, je bouge beaucoup. Certes, je perds du temps en trajet. Du temps, par exemple, où je pourrais travailler administrativement chez moi ou faire les bilans, les comptes rendus. Mais je travaille différemment tous les jours. Je suis en contact avec des gens différents tous les jours qui ont une problématique différente. Je travaille sur un projet différent avec les structures. Et je suis habituée, en fait. Donc ça me va très bien. Et j'organise mon temps de travail un petit peu comme je veux. Notamment pour ma vie personnelle, emmener mes enfants à l'école. Je peux emmener mes enfants à l'école tous les matins, prendre mes congés. Si j'ai une semaine où je sais que je vais travailler, je vais travailler énormément toute la journée, même le soir. Et la semaine d'après, ça va être beaucoup plus libre. Enfin, voilà. Donc aujourd'hui, cette façon de travailler me plaît beaucoup. La difficulté que j'aurai toujours, je pense, mais ça je l'ai accepté, c'est de travailler la journée dans les structures et d'avoir du travail à faire le soir en rentrant chez soi. Donc souvent je travaille une fois que mes enfants sont couchés. Voilà, parce que j'ai pas envie de prendre du temps sur ma vie personnelle avec mes enfants. Donc la journée, je travaille dans les structures, mais j'ai aussi tout ce qui est administratif, tout ce qui est bilan, compte rendu. Comme je travaille dans les structures différentes tous les jours, j'ai autant de bilans, de compte rendu, de choses à faire en fonction des structures dans lesquelles j'interviens. Donc ça, c'est vrai que ça me demande beaucoup de temps de travail. J'ai aussi ma vie familiale où j'ai envie d'avoir un équilibre aussi par rapport à ça. Donc il y a vraiment clairement des semaines ou même des mois où il y a des fois je suis débordée et je sais que j'arrive pas à tout finir en fait. Donc j'essaye de prioriser ce qui est prioritaire dans le travail. Donc ça, ça restera tout le temps comme ça. C'est le métier qui veut ça. Après, ce qui peut être compliqué des fois, c'est, je pense comme tout le monde, j'ai des moments où j'en ai parfois marre. Où je me pose des questions, est-ce que je change pas ma façon de travailler, est-ce que je modifie certaines choses. Alors arrêter ce métier, non. Ça pour le moment, je l'ai jamais eu, mais je touche du bois. Mais non, c'est vraiment un métier que j'aime, mon métier. J'ai une maman qui a, pour la petite anecdote, j'ai une maman qui a commencé à travailler à l'âge de 16 ans en usine, qui a travaillé pendant 30 ans et qui nous a toujours élevés avec mon frère et ma sœur en nous disant « Surtout, fais un métier que vous aimez, c'est hyper important. » Et je crois que j'ai toujours gardé ça dans un coin de ma tête. Et c'est pour ça que je fais ce métier, parce que j'aime ce que je fais, en fait. Et j'ai pas envie de le lâcher. Alors après, j'ai des moments où je suis fatiguée, où je pense que le moral, il est à plat. Le fait de faire partie d'une coopérative aussi et de connaître d'autres entrepreneurs ou même d'autres socio-esthéticiennes, ça permet d'échanger et de se rassurer et de se faire du bien. Et c'est aussi ça que j'aime. Je suis fière d'avoir réussi à faire le métier que j'aime. À continuer d'avoir ce statut d'entrepreneur salarié. Ça veut dire que j'arrive aussi à gérer quelque part mon activité, à la maintenir. Donc j'ai pu faire quelque chose et je peux maintenir quelque chose. Ça prouve que je suis capable.
Merci beaucoup à Florence Hervouette de L'Art de Soi. Vous pouvez la retrouver sur l'annuaire des pros du site de l'Ouvre-Boîte et sur les réseaux sociaux dans la description de cet épisode. Belle Réussite est un podcast réalisé par Sophie Border et la musique est de Nord Groove. L'Ouvre-Boîte est une coopérative d'activité et d'emploi en Loire-Atlantique et Vendée. Elle offre à toute personne porteuse de projet un accompagnement et un statut sécurisant pour développer son activité, à la fois indépendant et salarié d'une entreprise. Retrouvez-nous sur notre site internet www.ouvre-boîte.coop.